regard de femme. C'était en 2015 à la galerie Egoa. Cinq femmes qui disent ici le fond, la couleur, le difficile, leurs envies et leur rôle. Marianne Rosenstiel, photographe et portraitiste. Sarah Caron et Marie Dorigny, photojournalistes. Sabine Weiss, disparue le 28 décembre 2021. Et la plasticienne Gabriella Zalapi. Cette exposition collective proposait un univers de lumière, de sensualité, de finesse et d'absolu. Nathalie Landaburu avait demandé à Alain Mingan, commissaire d'exposition, de convoquer des femmes à forte personnalité. Engagement tenu. Marianne Rosenstiel, comment définiriez-vous votre métier ?
À vrai dire, j'ai une relation très simple à la dénomination de mon métier. Je suis photographe. Le vrai challenge du photographe, c'est de pouvoir, au fond, sortir une bonne image, quelle que soit la situation. Et qu'on soit en composition, qu'on soit en reportage, qu'on soit complètement impuissant face à ce qu'il y a devant soi, voilà, c'est l'enjeu, c'est toujours l'enjeu. Oui, j'ai peut-être la prétention, hein, c'est assez prétentieux, hein, d'essayer de saisir ou de traduire ce qui est à cet instant-là ma perception de l'identité de l'autre. Et je prends toujours et du temps et les éléments qu'il me faut pour prendre un peu connaissance des particularités de la personne que je vais photographier. Parfois même on se rencontre auparavant, avant les séances de portrait. Ou parfois même on s'est déjà rencontré plusieurs fois antérieurement pour faire d'autres portraits. Y a des retrouvailles comme ça sur le temps. Mais c'est un challenge. Et d'autant plus quand il s'agit de personnalités, hein, de personnalités qui elles-mêmes ont déjà été photographier, refotographier, et là le pari, l'enjeu, c'est et qui fait peur vraiment à chaque fois, c'est comment est-ce que je vais raconter encore autre chose.
Vous dites que vous n'êtes pas en quête d'esthétique et plus d'éthique, vous voulez dire quoi?
C'est ma façon d'être fidèle à... voilà, c'est cette jonction entre une fidélité à la personne que je photographie et à moi-même. C'est-à-dire de limiter au maximum les compromissions, quelles qu'elles soient.
Sarah Caron, quel est votre métier ?
Photographe.
Photographe de quoi ?
A priori, je suis photojournaliste.
Et pourquoi vous ne le dites pas ?
Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que là, on est dans un contexte un peu particulier. On est dans une galerie. J'expose un travail personnel qui n'a rien à voir avec le photojournalisme. Et pour avoir cette liberté d'exposer ce travail-là en m'enlevant l'étiquette du photojournaliste, c'est sûr qu'avec votre question, vous me recollez tout de suite l'étiquette. En tout cas, vous me demandez de me la coller moi-même.
Oui, parce que je vous reconnais.
Finalement, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que je ne peux pas me défaire de mon premier métier qui est photojournaliste. Et quelque part, je vous montre, à travers mes photographies, une information nouvelle. Donc, c'est du photojournalisme.
Ce n'est pas ce que vous montrez. C'est le fait que vous traitiez ce sujet qui est du photojournalisme.
si vous voulez, pourquoi pas. Bien sûr.
Alors, parlez-moi de cette envie, du coup. Le travail que vous avez réalisé sur ces femmes qui, en fait, font le modèle.
Bah, tout est parti du fait, d'abord, j'ai passé beaucoup de temps au Pakistan pour faire des histoires qui étaient des commandes pour des magazines, généralement autour de l'actualité du moment. Et en passant du temps au Pakistan, j'ai découvert qu'il y avait aussi un petit monde un peu particulier qui était le milieu de la mode, comme il y a dans tous les pays finalement. Sauf qu'au Pakistan, c'était très spécial, puisque en 2009, les designers ont décidé de faire une fashion week pour la première fois de leur vie. Ils créaient une fashion week. Et ils ont décidé ça en 2009 parce qu'en 2009, les talibans étaient à Bunair. Bunair, c'est une petite ville qui est dans la vallée de Swat. Et c'est à peu près 100 km d'Islamabad. Donc là, il y a eu un mouvement de panique de toute la société civile du pays. Et dans ce mouvement de panique, il y a eu une pression qui a été mise sur l'armée pour que l'armée fasse des opérations militaires contre les talibans. Ce que l'armée souhaitait d'ailleurs, c'est-à-dire que l'armée a laissé envenimer la situation, a laissé les talibans prendre la vallée de Swat, jusqu'au moment où ça devenait insupportable pour toute la population et la population elle-même a demandé à l'armée d'intervenir. Donc c'était un peu un jeu stratégique de la part de l'armée. Et alors à ce moment-là, le milieu de la mode pakistanais a décidé de faire cette Fashion Week. Et d'une certaine manière, ils ont créé cette Fashion Week en disant, voilà, c'est une façon, notre façon à nous, de protester politiquement et de dire... Il y a autre chose au Pakistan, il n'y a pas que les talibans, il y a aussi un peuple qui se bat pour ses libertés fondamentales, et les femmes en première ligne ont voulu montrer qu'elles étaient tout à fait résistantes et qu'elles n'allaient pas se laisser faire, quoi. Donc voilà, donc à partir de là, moi j'ai eu envie de traiter de l'histoire de ce petit milieu qui était un milieu en fait qui correspond peut-être, je ne sais pas, à 1% de la population du pays, c'est pas énorme, mais... Un peu comme dans à la fin des années 70 en Espagne, quand il y a eu le mouvement de la Movida. Je me suis dit, ça, c'est une sorte de Movida à la pakistanaise. Et du coup, j'ai eu envie de faire un travail plus approfondi sur le sujet. Je suis retournée là-bas faire des shootings spécifiques, en faisant des mises en scène de mode, mais quand même style reportage. Et j'en ai fait un livre qui s'appelle Movida Masala.
Est-ce que les femmes se sont prêtées facilement à ce travail ?
Ah oui, les mannequins que j'ai sollicités, bon, c'était des top modèles dans leur pays, donc d'une certaine manière, elles avaient la possibilité de pouvoir travailler sur quelque chose qui était finalement politique. Elles ont accepté avec enthousiasme, oui. Alors elles avaient un petit peu peur, parce que moi je leur demandais de faire des shootings dans la rue, en lumière du jour, alors d'habitude elles travaillent en studio. Ça, c'était un petit peu délicat. C'est vrai qu'il a fallu faire très vite. On ne pouvait pas rester dans la rue trop longtemps. Il a fallu avoir pas mal de sécurité autour. Mais ça a été possible, oui.
Il y a une photographie où on voit une jeune femme qui passe à New York et on voit les ouvriers qui font le lunch assis sur le trottoir et qui tous regardent la femme qui passe.
Sabine Weiss, photographe.
Et puis il y a une photographie que j'appelle la drague. C'est en Bulgarie et c'est très curieux. C'est les femmes qui draguent les hommes. Alors nettement. Et là, elle c'est amusant parce qu'elle est grande et lui tout petit. Elle essaye de le charmer quand même. C'était un métier difficile parce qu'il y avait des choses techniques à l'époque qui étaient extrêmement difficiles. Par la rapidité des films, d'abord on utilisait des films très grands, d'une surface très grande, et les films étaient très lents, certains, et il y avait des films étaient mauvais, ils avaient des dominantes, enfin il y avait beaucoup de choses qui étaient difficiles, mais puis les autres choses faciles, comme les vues prises au hasard dans les rues, qui étaient faciles.
Oui, mais les rues, les vues prises au hasard dans les rues, comme vous dites, il faut l'œil, ils vont saisir un instant.
Oui, c'était juste le hasard de les trouver, de les voir et d'arriver à être assez rapide pour les photographier. Qu'elles vous touchent et qu'on les enregistre.
Comment vous avez été reçu au moment où vous croisez Douaneau, Ronis, etc. Justement, comment ça se passe ?
Alors, c'était curieux, c'était moi, j'avais fait une photo pour Vogue, le journal Vogue, et qui m'avait demandé de montrer ce que je faisais d'autre. Et j'ai dû arriver à ce journal Vogue, pour qui faisait surtout de la mode, avec des photos de morveux et de petits pauvres de terrain vague. Mais j'avais dû avoir d'autres choses, parce qu'il y avait donc le directeur de Vogue, qui était Michel de Brunhoff. Et il y avait un petit monsieur à côté de lui et qui disait « Ah, c'est formidable, elle a tout compris, que des compliments !» Et ce petit monsieur, c'était Robert Noineau. Donc j'ai tout de suite été, il a fait tellement de compliments que j'ai tout de suite été engagée à Vogue et que le lendemain, j'ai eu une lettre de l'agence RAFO qui me disait qu'il fallait qu'il voie tout de suite mon travail. Et ça s'est enchaîné comme ça. Renis, un peu, je l'ai connu un peu après quand même. Je sais pas s'il il était, je pense pas qu'il était déjà dans l'agence, je sais pas. Mais c'était en tout cas par l'agence Raffo que je voyais des photographes. Puis alors autrement, j'en voyais dans quelque chose quand il y avait des photographies de personnalités célèbres où alors tous les photographes se précipitaient. C'était la ruée. Et alors on me tapait sur l'épaule et on me disait, gentiment d'ailleurs, « Allez ma petite dame, laissez faire les photographes maintenant. Allez, allez, allez. » Mais évidemment que je me défendais.
Mon envie, face au flux d'images auxquelles nous sommes confrontés, face aussi aux événements politiques.
Gabriella Zalapi, plasticienne.
Mon envie, c'est de mettre en péril les images, en fait. C'est aussi pour ça que j'utilise cette technique avec ce pigment. Que je pose au pinceau sur le papier et que j'efface et que je remets, etc. Mon envie, c'est de rendre ces images, d'une part, en fait, de les faire dialoguer entre elles pour en faire ressortir des angles différents ou, en tout cas, en les décontextualisant, de les mettre en péril comme ça, on va dire, en fait, de permettre un autre regard sur ces images et d'autre part, par la technique, de les rendre légères et un peu évanescentes, selon.
Je dirais spirituellement presque immatériel.
Voilà. Quelque chose comme de l'ordre du rêve, de l'image qui passe, Voilà, ouais.
Est-ce que vous pouvez me décrire les trois que l'on voit ici, la série?
Bon, ça, c'est les Pussy Riot, donc c'est... Elle rentre pas dans tout ce que je viens de dire, là. Mais avec les Pussy Riot, j'ai commencé à mettre mon cerveau en recherche, parce que donc, en fait, j'ai fait ces pièces qu'on voit ici pour l'exposition. J'ai mis mon cerveau en route et j'ai pensé aux Pussy Riots parce que c'est un combat de femmes actuel, même si ça date peut-être d'il y a 4-5 ans. Et d'autre part, ce que je trouvais intéressant avec les Pussy Riots, c'est le fait de se voiler le visage. C'est qu'elles soient virulentes par le fait même qu'elles masquent leur visage. Et dans l'histoire du portrait, dans l'histoire de l'art, le visage a toujours été une manière d'asseoir un certain pouvoir. Et là, c'est une forme de prise de pouvoir par la négative, en fait, par le fait de se voiler.
Et le visage témoigne aussi du genre. Et là, ce qui est phénoménal, c'est que c'est masqué, comme d'autres devant nous ici, ou comme Patti Smith là-bas. Dans ce qui est montré ici, en tout cas, on ne voit pas les visages. Et pourtant, on sait que ce sont des femmes.
Mm-hmm. Oui, ça masque le genre, ça masque l'âge, ça masque l'appartenance sociale, ça masque... avec les Pussy Riots, en tout cas... Ça masque plein de choses, en fait.
L'esthétisme éventuel, voilà, immédiat. Quoi.
Voilà, exactement. Et donc, oui, et là, donc, on ne voit aucun visage parce que je pense que le visage, il est constamment à découvrir, en fait. Il est toujours en processus. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est le détail, c'est l'atmosphère, c'est... Voilà.
C'est mon travail sur le Cachemire, qui avait fait l'objet d'un livre, Cachemire, paradis oublié. Et là, j'ai extrait quelques photos que j'aime particulièrement de femmes cachemiries dans des instants un peu de bonheur, de douceur.
Marie Dorigny, photographe, photoreporter.
En fait, c'était l'idée derrière ce projet. Je vais au Cachemire depuis plus de 20 ans, 25 ans maintenant. Et j'y suis toujours allée pour couvrir la guerre et les événements terribles qui sont associés à cette guerre. Et depuis très longtemps, j'avais envie de voir et de montrer un autre Cachemire, celui que je savais exister parallèlement à cette guerre terrible. Et je me disais, il faudrait venir et puis vivre au quotidien avec ces gens, ces familles, et montrer qu'il y a heureusement d'autres choses qui perdurent de la culture cachemirie. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Je me suis quasiment installée au Cachemire et j'ai couvert les différentes saisons, et en suivant au plus près la population dans ces espèces, dans ces espaces de bonheur, de douceur, de ces espaces familiaux qu'ils étaient arrivés à préserver malgré cette guerre. Et ces photos sont extraites de ça.
Comme le souligne Marie Dorigny, les artistes présentent ici des œuvres heureuses, joyeuses.
Écoutez, ça me fait plaisir que vous puissiez y voir de la joie.
Marianne Rosenstiel.
Je...
De la bonne humeur.
Oui. Elles sont assez intérieures en même temps, hein. Mais elles sont gracieuses. C'est ce que j'essaie de c'est ce que je vais chercher peut-être souvent. Ce qui n'empêche pas une forme de gravité, hein. On n'est pas du tout dans un registre de superficialité. Artificiel. Il y a quelque chose d'intense de la présence de l'autre. C'est ce qui me touche et voire me bouleverse, hein, souvent. Mais néanmoins, ça, la gravité ne signifie pas non plus une descente en abîme de dépression.
Sarah Caron, photographe, photoreporter.
Il y a de la joie à pouvoir montrer qu'il y a de la vie. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais autre chose aussi très important qui contraste avec ce qu'on a l'habitude de voir à Paris en hiver, c'est la couleur. C'est-à-dire que le Pakistan est un pays extrêmement coloré. En tout cas, les femmes aiment les vêtements très colorés. Ici, on s'habille en noir très facilement. La lumière est plutôt grise, mais là-bas, il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de couleurs. Donc cette joie vient aussi du fait de cette couleur, je pense.
Y a-t-il une spécificité, un style féminin dans la photographie à la Magan?
Sincèrement, oui, de la même façon que, fort heureusement, il y a une féminisation du métier, du grand reportage jusqu'au reportage tout simple. Ce qui est grand, c'est surtout la qualité du regard. Et à ce propos, les femmes, souvent, ont plus peut-être, parce qu'elles donnent la vie, parce qu'elles sont très très proches des gens, plus proches que peuvent être parfois les hommes qui jouent un peu d'un certain machisme ambiant, etc. et tout. Bref, ils ne sont pas démunis de sensibilité, les hommes. Mais il y a, au-delà de l'effet de séduction, il y a dans le regard féminin une générosité, peut-être plus profondément de respect qu'il y a chez les hommes.
Marianne Rosenstiel.
Je pense qu'on est chacun un, et avec nos bagages, nos béquilles et nos richesses, et on a nos désensibilités qui se développent, se complètent, s'accordent. Voilà, homme ou femme, je pense qu'un homme aurait pu travailler totalement, bien sûr, sur le sujet du tabou du sang féminin. Autrement, voilà, c'est tout. C'est une écriture, chacun son écriture et son identité. Mais il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de jugement de valeur qui se pose là. La valeur, elle est sur la qualité des choses, sur le résultat, mais pas avant.
Y aurait-il un style féminin dans la photographie? Peut-être, je ne sais pas.
Sarah Caron.
C'est pas forcément au niveau du style, d'ailleurs. C'est peut-être au niveau du questionnement, de ce qui est recherché, plutôt en profondeur. Il y a forcément une différence. On est sensiblement... Enfin, on a des sensibilités différentes. Enfin, déjà, chaque photographe est différent. Chaque photographe est une île en soi, mais... Je suppose que le regard d'une femme sur le monde peut être forcément un peu différent, oui, je pense.
Et être photoreporter femme dans un pays comme le Pakistan, comment vous travaillez là-bas?
Vous savez, c'est difficile de répondre à cette question parce que je ne peux pas vraiment comparer si j'avais été un homme. Donc du coup, je ne sais pas quoi comparer, avec quoi. Ce que je peux dire, c'est que j'ai eu l'impression que finalement, c'était plutôt un avantage d'être une femme au Pakistan. qu'un inconvénient, parce que j'avais l'accès aux femmes et l'accès aux hommes. Il est évident que les hommes n'ont pas l'accès aux femmes. Rien que ça, ça m'a donné un panel beaucoup plus large dans ma compréhension du pays et dans ma possibilité d'échanger, même de créer des liens, de créer des amitiés. Je pense que ça a été un très gros avantage d'être une femme. Ensuite, pour l'aspect plus sécuritaire, l'avantage a été aussi très grand, puisque finalement il y a une forme d'envie de protection que les fixeurs peuvent avoir avec vous si vous êtes une femme. Donc là aussi c'était un avantage. Je ne pense pas avoir eu plus de difficultés que si j'avais été un homme, au contraire. Et d'ailleurs ça se comprend assez bien parce qu'on constate qu'il y a énormément de femmes journalistes, que ce soit pour la télé ou la presse écrite, au Pakistan, beaucoup plus que d'hommes finalement. Donc c'est sûrement parce qu'il y a un gros avantage.
J'aime pas tellement me cataloguer en tant que femme photographe. Je suis photographe. Bon, il se trouve que je suis une femme par ailleurs. Mais je suis d'abord photographe. Alors ça...
Marie Dorigny.
Au Cachemire, c'est un pays musulman, mais très ouvert. Hein. Ce sont des soufis. Donc, ils ont une très, très grande tolérance à l'autre, à l'image. J'ai jamais eu aucun problème pour photographier au Cachemire, contrairement à certains autres pays musulmans. Et je passe d'une société à l'autre, celle des hommes à celle des femmes, sans aucun souci. Il y a des pays comme le Pakistan ou l'Afghanistan... où le fait d'être une femme est un avantage certain parce qu'il me permet d'aller du côté des femmes et aussi du côté des hommes, ce qui n'est pas possible pour un homme photographe. Au Cachemire, je ne suis pas sûre que ce soit aussi évident parce qu'il y a beaucoup d'hommes photographes qui couvrent le Cachemire et qui photographient les femmes dans leur intimité sans problème. Il n'y a pas ce problème de la société musulmane, chiite ou sunnite au Cachemire. Les soufis sont beaucoup, beaucoup plus ouverts par rapport à l'image et aux étrangers et la relation de l'étranger à leurs femmes, leurs filles. Ce n'est pas du tout la même hystérie que je peux connaître au Pakistan ou en Afghanistan.
Ce son a été enregistré, monté, mixé, réalisé par Jean-Louis Vinet. C'est une production de www.aloeil.info. Vous pouvez retrouver tous nos sons, tous les podcasts sur www.a-l-oeil.info. Info au singulier. Là, vous aurez tous nos podcasts. Bonne écoute et à bientôt !